Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Bonjour Jacques Attali.
Bonjour Patrick Cohen.
Dans votre dernière chronique parue dans Les Échos, vous appelez à une sorte de déconfinement mental pour que nous puissions enfin penser à autre chose, parler d'autre chose que de cette pandémie qui nous enferme. Mais comment faire ?
C'est d'abord se rendre compte qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas confinés parce qu'ils rendent possible le confinement plus ou moins agréable d'une petite partie ou d'une grande partie de la population. Et c'est à eux qu'il faut penser. Il faut penser à tous ceux qui ne le sont pas. Et cette discussion sur le déconfinement est une discussion de gens plutôt privilégiés. Il faut en avoir conscience. Il y a aussi des tas de gens qui sont confinés dans des conditions épouvantables et ou pas. Il pleut en ce moment dans Paris. Combien de gens sont dans les rues? Combien de gens travaillent? Et c'est à eux qu'il faut penser plus qu'à soi-même. Et puis, il faut penser à autre chose. Il faut penser que la vie est courte, qu'il faut en profiter le mieux possible, qu'elle soit la plus réussie possible. Il faut faire en sorte aussi de ne plus avoir à être confiné de nouveau. Et pour ça, il faudra faire, et je le ferai dans un texte dans 3 semaines, le bilan de ce qui a conduit à ce confinement désastreux. Vous avez posé une très bonne question, une fois de plus, cher Patrick Cohen, tout à l'heure, en demandant est-ce qu'on n'aurait pu pas faire autrement et éviter le confinement. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Si on avait regardé les choses avec précision, on aurait vu qu'il y a certains pays qui, avant même d'avoir un seul cas de maladie, avaient pris la décision d'imposer le masque, le test et le traçage. Et ces pays n'ont pas confiné, ces pays n'ont pas de crise, très peu de cas. Il se trouve simplement que ces pays sont des démocraties. Je pense en particulier à la Corée du Sud et à Taïwan. Et nous avons fait collectivement, pas seulement en France, en Europe, aux États-Unis, l'erreur folle de d'imiter la stratégie d'une dictature qui elle-même s'était menti à elle-même. D'ailleurs, c'est une des leçons qu'il faut tirer de cette période. Ne jamais se mentir à soi-même, et évidemment, encore moins, il en découle qu'on ne doit pas mentir aux autres. Mais les Chinois se sont mentis à eux-mêmes, au point d'avoir à imposer, bien avec beaucoup de retard, un confinement, et nous avons suivi leur exemple. Donc si on veut que le déconfinement soit une période où on pense à autre chose, où on parle d'autre chose, où on vit heureux et libre, il faut aussi tirer les leçons de cette incroyable erreur collective.
Je reviens quand même sur ces leçons et sur ce regard rétrospectif. Vous pensez sincèrement, Jacques Attali, que fin février, début mars, nous avions le niveau d'information suffisant pour prendre les mesures qui auraient permis d'éviter le confinement ?
On peut reprocher à la Corée du Sud de ne pas avoir assez fait connaître son modèle. Mais le 4 février, c'est-à-dire 15 jours avant d'avoir le premier cas en Corée, la Corée impose les tests, les masques et le traçage. Je rappelle que le virus en question a été décrypté le 11 ou 12 janvier, que des tests existaient avant déjà, puisque plusieurs entreprises, dont une entreprise allemande, avaient mis au point un grand nombre de tests et qu'un test précis avait pu être dès le 12 janvier déployé, et que donc vous parlez de fin février début mars, bien avant, on aurait pu évidemment en février, fin février début mars, j'étais de ceux qui disaient mobilisons-nous tous pour créer les conditions d'une production massive de masques, de tests, de respirateurs. On ne l'a pas fait nulle part, je ne dis pas spécialement, nulle part on s'est mobilisé. Et aujourd'hui, quand je dis qu'il faut parler de l'avenir, il faut s'occuper de savoir quel projet de société on a. Les leçons qu'on peut tirer de cette période, c'est qu'évidemment on ne consacre pas assez d'argent à se soigner, à enseigner, à se nourrir, et beaucoup trop d'argent à des choses qui ne le méritent pas. C'est ce que j'appelle, pour ma part, réorienter nos sociétés vers l'économie de la vie. Ça, c'est un vrai projet de société qui ne se résume pas au problème du climat, qui lui est un problème important, mais qui est loin d'être le seul. Et c'est dans cette réflexion sur quel est le projet qu'on doit construire qu'il faut replacer les enjeux du déconfinement.
Alors, penser l'avenir, penser l'après, vous avez d'abord dit que c'était penser pour soi-même, et je crois que beaucoup de gens l'ont fait pendant ces semaines inédites, extraordinaires, ça a donné à réfléchir sur nos modes de vie, nos priorités, nos relations aux autres. Mais pour nos sociétés, vous voyez en ce moment, Jacques Attali, le foisonnement de résolutions, d'utopies, d'appels à tout changer ou à expier nos fautes, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Quand on regarde l'histoire des pandémies, il y a toujours eu l'idée que la pandémie était la conséquence d'une faute individuelle ou collective, tout ce qui a conduit d'ailleurs à chercher des boucs émissaires, etc., etc. Donc c'est pas nouveau. Deuxièmement, la réflexion individuelle doit être menée au bout. Il faut qu'on sorte du déconfinement, surtout pas en ayant l'idée qu'il faut que ce soit comme avant, ni individuellement, ni collectivement, il faut changer. C'est une pause, et si on peut en tirer le meilleur, c'est de dire, ma vie est courte, j'ai peu de temps, est-ce que j'en ai le meilleur usage? Est-ce que je fais meilleur usage de cette vie unique que j'ai? Est-ce que c'est d'être journaliste à Europe 1, écrivain, musicien? Et je peux m'arracher de mon contexte, qu'on ne dise pas que les conditions sociales n'imposent totalement. La politique est là aussi pour créer les conditions pour que chacun puisse, ce que j'appelle moi, devenir soi. Et cette pause est une condition incroyablement un accoucheur du devenir soi très, très précieux. Collectivement, c'est pareil. Je suis assez perplexe devant ceux qui refourguent leurs vieilles utopies dans des circonstances nouvelles, sans d'ailleurs proposer beaucoup de moyens d'y parvenir. Je crois qu'il faut réfléchir à ce que ceci nous impose de changer. C'est pourquoi j'ai essayé de structurer ma propre réponse autour de ce concept d'économie de la vie, c'est-à-dire de tous les secteurs invisibles avant et sans lequel nous ne pourrions pas vivre, sans lequel il n'y aurait pas de confinés pour ceux qui peuvent l'être, parce que ceux qui ne le sont pas travaillent justement dans l'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le digital, l'information, l'alimentation, l'agriculture, la distribution, la logistique, la sécurité, tout un série de secteurs qui évidemment doivent être les priorités des priorités. Je pense qu'il faut collectivement avoir une économie de guerre sur ces secteurs, qui réglerait d'ailleurs en même temps le problème du climat. C'est aussi d'ailleurs une leçon qu'on peut tirer de cette période. Si on croyait que la décroissance était une solution du problème du climat, on vient d'avoir la preuve que c'est pas possible, puisque la décroissance que nous connaissons aujourd'hui, qui fait le nombre de chômeurs qu'on verra lorsque le chômage partiel aura disparu, et des dépenses budgétaires gigantesques, n'amène pas, sauf à maintenir la même décroissance tous les ans pendant 10 ans, à régler le problème du climat. Donc évidemment, c'est pas la décroissance qui a la solution, c'est produire autrement. Et ça me ramène à ce que j'appelle l'économie de la vie. Produire autrement et non pas décroître.
Donc d'une certaine façon, vous expliquez aussi qu'on est condamné aux vieilles recettes. La croissance, le travail, la création de richesses pour rétablir l'emploi et le niveau de vie.
Non, c'est pas les vieilles recettes. On est condamné à produire autrement. C'est pas la croissance qui aggrave le climat, c'est la production. Donc si c'était la croissance qui aggravait le climat, il faudrait faire une production zéro. C'est absurde. Il faut une autre production. Si cette autre production suppose de la croissance, c'est un fait annexe, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de changer le contenu de la production pour aller d'une production qui aggrave le climat, mais aussi les injustices sociales, mais aussi les violences faites aux femmes et aux enfants, mais aussi bien d'autres problèmes que celui du climat, en tenant compte du fait que cette pandémie était prévisible. Je fais partie de ceux qui en parlaient il y a 20 ans, puis il y a 10 ans, et il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait, et qu'on n'a pas agi dessus avant. Et ça nous donne des leçons pour tous les problèmes qui sont aujourd'hui prévisibles, dont celui du climat, dont celui de la révolution sociale qui se prépare un peu partout avec l'extraordinaire aggravation des inégalités dont cette crise va être la conséquence ou la cause. Et tout cela est là, et on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu.
Économiquement, Jacques Attali, comment on s'en sort, quels que soient les moyens déployés par les États et les banques centrales? C'est une crise qui nous appauvrit collectivement, qui appauvrit nos pays développés.
D'abord, c'est une crise évitable. Je rappelle que c'était une crise évitable si on n'avait pas fait la folie en Europe et aux États-Unis de suivre le modèle chinois. Deuxièmement, c'est une crise qui maintenant va être extrêmement grave et qu'il faut la gérer d'une façon juste. J'ai dit depuis le début du mois de mars que ça serait moins 10% du PIB à l'échelle mondiale en 2020. J'espérais avoir tort, je crains de ne pas avoir tort. Maintenant, il faut s'en sortir. Pour s'en sortir, il ne faut pas seulement mettre de l'argent un peu partout pour reporter l'échéance. On peut reporter l'échéance de 6 mois, d'un an, 2 ans, mais on aura toujours autant de dettes. Il faut réorienter notre économie pour avoir en effet cette société dont je crois être la meilleure. C'était une société qui s'oriente vers des secteurs utile socialement et créateur d'emplois. C'est une transformation très profonde qu'il faut faire. Ça suppose une mobilisation générale que je ne sens nulle part. Nulle part, évidemment pas aux États-Unis. J'espérais pour ma part que cette mobilisation arrive aux États-Unis et en Grande-Bretagne, parce qu'ils ont connu la guerre et ils l'ont menée d'une façon incroyablement formidable. Je parle de la Seconde Guerre mondiale. Je ne l'espérais pas trop de la France, parce que la France a été battue dans la Seconde Guerre mondiale et la seule économie de guerre qu'elle a faite, c'était au service de l'occupant. Donc c'était pas vraiment un modèle. Mais on l'a bien vu, puisque nous n'avons pas converti, alors que d'autres pays, prenez l'exemple du petit Maroc, qui a converti son industrie textile pour produire des masques, on a été capable de le faire dans notre pays, alors qu'on avait tous les moyens de produire tous les masques nécessaires chez nous, si on avait mobilisé. Et c'est pareil en Italie, c'est pareil en Allemagne, où on n'est pas de ce point de vue, et vous l'avez montré vous-même beaucoup mieux que nous sur bien des dimensions de cette crise, il n'y a pas de mobilisation générale qu'on pouvait espérer en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Europe. Elle n'est pas là. Pourquoi ? Parce que on s'est contenté de d'appuyer sur le bouton pause, qui est vraiment la pire des solutions.
Ce que vous appelez une économie de guerre, hein ? C'est ça ?
Oui, une économie de guerre, ça ne veut pas dire la guerre contre un ennemi, ça veut dire une économie où on se mobilise d'une façon forte, avec une planification pour réorienter les choses d'une façon rapide. Ce qu'ont fait les Coréens, je reprends cet exemple, les Coréens ont donné tout pouvoir à une entité spécifique qui a mis en place les conditions, je le dis, 15 jours avant le premier cas en Corée. Tout ce qu'on aurait dû faire dans tous les pays européens, mais on n'a pas suivi l'exemple coréen. Et encore une fois, la seule chose qu'on peut reprocher aux Coréens, c'est d'avoir parfois fait assez la publicité de leur modèle. Cette économie de guerre, elle est aujourd'hui absolument nécessaire. Absolument nécessaire si on veut éviter que cette crise soit encore plus grave d'un point de vue social, d'un point de vue démocratique, parce qu'on voit combien de libertés publiques sont en cause aujourd'hui par la crise qui est là, et d'un point de vue climatique, parce que si en effet on repart sur une croissance aussi absurde qu'avant, ça sera pire.
Merci Jacques Attali. On pourra trouver demain dans les librairies enfin rouvertes votre dernier livre « À tort et à raison » qui devait sortir à la mi-mars. C'est un réexamen de vos écrits, de vos analyses et parfois une autocritique face aux questions de Frédéric Taddeï, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Jacques Attali de nous avoir accordé cet entretien.
À bientôt.
Europe 1.